Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Comment regardons-nous le ciel ? Soit j'attends tout du ciel, ça veut dire que je fais rien sur la terre, voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, soit je vis comme si le ciel n'existait pas. Soit je suis un bon Gaulois et j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, et on peut décliner hein, avec toutes nos vies. Je pense que l'ascension, en fait, vient purifier notre regard sur le ciel. Il vient nous apprendre à bien regarder le ciel pour bien vivre sur la terre. On prend l'épître aux Hébreux. D'habitude, on a l'épître aux Éphésiens. Et puis, une fois tous les 3 ans, on a l'épître aux Hébreux. Alors, celle qui nous donne un peu la tonalité du jour, la tonalité de cette année. On entend ceci. « Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même. » C'est le ciel, le sanctuaire véritable. « C'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. » Avançons-nous donc vers Dieu. Que veut nous dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux ? Certainement ceci. Notre vie est fondamentalement orientée vers le ciel. Elle est fondamentalement tournée vers le ciel. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. Saint Augustin. Pensez à cette question du jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour entrer dans la vie éternelle ? Pour avoir cette vie éternelle en héritage ? » C'est-à-dire pour entrer au ciel. Est-ce que je suis tourné vers le ciel ? J'ai tout un tas de questions que je vais vous poser, hein. Après, voilà, on répond avec ce qu'est notre vie. Est-ce que le ciel, par exemple, est un bien pour moi ? Est-ce que je considère que c'est un bien pour moi ? Est-ce que je suis dans l'espérance du ciel ? Pour moi-même, mais aussi pour les défunts, mes proches, puis les âmes du purgatoire ? Est-ce que j'ai compris que mon appel véritable, c'est d'être au ciel ? Dans la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai compris cela ? Est-ce que je l'ai intégré ? Est-ce que je ressens une petite insatisfaction, disons ceci, pour les choses de la terre, pour les relations de la terre, et qui me fait désirer encore davantage les choses du ciel ? Est-ce que je médite sur la mort ? Je suis un peu rabat-joie, hein. Normalement c'est une fête joyeuse, l'ascension, on doit sourire, tout est gai, très bien. Est-ce que je médite sur la mort ? Vous dites votre « Je vous salue Marie » au moins une fois par jour, je suppose. Et donc vous priez pour votre mort, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est les deux moments qui nous intéressent comme chrétiens. Maintenant, voilà, Seigneur donne-nous ta grâce maintenant, et à l'heure de notre mort. Parce qu'on sait que c'est important, l'heure de notre mort. C'est le moment du passage. Est-ce que je médite sur la mort ? Quand j'ai le regard tourné vers le ciel, est-ce que je suis capable de relativiser les situations d'ici-bas, les situations de notre monde, les situations que je vis, à cause de ma vie éternelle, à cause de ma vocation dans l'éternité ? Ça peut être la maladie, ça peut être une souffrance, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un pardon indonné. Souvent, on retient toute notre vie un pardon qu'on doit donner, qu'on doit demander. Et puis, c'est au moment sur notre lit de mort, où on se réveille un petit peu et on se dit, on va commencer à faire un peu les réconciliations. Je vous parle d'expérience parce que j'ai accompagné moi-même, quand j'étais séminariste, une mourante. Et ça a été un combat pour arracher cette réconciliation dans sa famille. Et donc, il y a des pardons à donner. Donc, relativiser ces choses de la terre par rapport à cette vocation éternelle. qui est tellement plus importante. Est-ce que j'ai compris aussi, en fait, que ça passera par ma vie réelle d'aujourd'hui ? Pas par des choses que j'imagine, que j'élucubre. Non, non, par ma vie réelle d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que, bon, on insiste beaucoup avec l'épître aux Hébreux que Jésus est emporté au ciel, le véritable sanctuaire. Quelle est la réaction des disciples ? Ils retournent au temple, un sanctuaire fait de main d'homme, qui n'est pas le sanctuaire véritable. Saint Pédis n'est pas le sanctuaire véritable. La cathédrale de Vannes n'est pas le sanctuaire véritable. Notre-Dame de Paris n'est pas le sanctuaire véritable. Enfin, je décline comme ça. Mais eux retournent dans le temple. Donc ça peut nous interroger. Jésus va au ciel, eux retournent au temple. Mais justement, si Jésus monte au ciel, ça veut dire qu'il a véritablement vécu sur la terre. Si moi-même je suis finalisé pour le ciel, ça veut dire que ma vie ici-bas, elle a une consistance. Saint Paul dirait, elle a un poids de gloire, une portée éternelle. Qu'est-ce qui donne consistance à ma vie ici-bas ? On voit dans les Actes des Apôtres, et ça vous êtes d'accord avec moi, hein, le calendrier dit que l'ascension c'est 40 jours après Pâques. Très bien, on nous le dit dans les Actes des Apôtres, pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples. Très bien. Sauf que quand on prend l'évangile de Luc, apparemment Luc il a écrit aussi les Actes des Apôtres, hein, donc Luc, on prend Luc et on voit que l'ascension a lieu le soir même de Pâques. Vous connaissez la fin de Saint-Luc, au chapitre 24. On a les disciples d'Emmaüs, et puis ensuite, ils retournent au Cénacle. Il y a une petite scène au Cénacle, et on nous dit « Alors, il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. » Et ensuite, on a notre évangile. Il n'est pas dit 40 jours plus tard. On a tout de suite notre évangile, qui est une espèce d'annonce de la passion et de la résurrection de Jésus. Hein. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ascension fait partie intégrante du mystère pascal. Que tout à l'heure, quand je vais prier la prière eucharistique, et dans toutes les prières eucharistiques, on cite la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension. Son ascension, c'est ça le mystère pascal de Jésus. Et que toute la vie de Jésus, c'est sa Pâque. Que tous les évangiles, c'est une seule et même montée vers Jérusalem pour Jésus, pour qu'il vive sa Pâque. Une seule et même Pâque. C'est ça. Et donc la vie du chrétien, la vie de l'homme, c'est une seule et même Pâque. C'est ça la consistance de notre vie sur terre. C'est de vivre cette Pâque. Je suis toujours, à 9h30, j'ai dit surpris. Puis je me suis repris, j'ai dit atterré. Là, je vais reprendre atterré. Quand quelquefois, aux funérailles, j'ai pas trop de légitimité parce que je célèbre beaucoup moins de funérailles, mais... Aux funérailles, il y a un petit mot d'accueil par la famille au tout début. Et puis, souvent, on va dire « Merci, mamie, pour tes crêpes. » Ça parle de l'équipe de funérailles, généralement, ce genre de mots. Elle sait ce dont on veut parler. Mais j'espère que mamie a transmis à ses petits-enfants un peu plus que des crêpes. J'espère qu'elle a transmis des valeurs, des vertus, etc. On est touché un peu par les vertus de mamie, non ? J'ai eu une situation à un moment donné très gênante. J'étais invité à une ordination, et puis à un moment donné, on demande à certains invités de dire un mot sur l'ordonné, sur le jeune prêtre. Et puis, j'avais rien à dire. Rien à dire. Situation hyper gênante. Alors j'ai repris quelques éléments de langage, et puis quelques mimiques, et en fait c'était tout. C'était tout ce que j'avais à dire. Donc, situation hyper gênante, voilà, j'en suis encore un peu gêné maintenant, mais ça nous pose cette question. Que voulons-nous qu'on dise de nous maintenant et à l'heure de notre mort.